Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable est opportun.
Moi, je me dis que ce sont les États qui doivent aujourd'hui se lever, prendre leurs responsabilités.
Opportun, oui, de voir quelle perspective donner à la jeunesse alors que le drame des migrants est on ne peut plus aigu. C'était donc le thème central du sommet qui a réuni 28 États européens et 55 États africains mercredi et jeudi à Abidjan. Auparavant, le président français Emmanuel Macron avait prononcé un discours devant les jeunes au Burkina Faso. Autant de sujets qui vous ont fait réagir. On en parle dans ce club des auditeurs et internautes animé par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanche à 7h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Ce thème du sommet UAUE, je pense qu'il est opportun. J'espère que cette initiative sera appliquée. Parce que ça sera un développement d'abord qui sera amorcé, mais aussi une promesse qui sera réalisée. Parce qu'on a même fois entendu des promesses, des discours bien orchestrés, mais toutefois sans réalisation, sans fait concret. Donc on attend et bon, tout ça bien sûr dans le cadre de ce qui a été dit par Emmanuel Macron au Burkina Faso. Qui dit que l'Afrique doit aller de l'avant et que l'Europe ou la France n'a rien à dire et encore à prendre en Afrique. Donc, j'espère que ce sera un nouveau pas.
Romaric, jeune Ivoirien d'Abidjan, espère un changement, de meilleures perspectives pour les jeunes en Afrique, où les moins de 25 ans représentent 60% de la population. C'est que des centaines de milliers de jeunes, face au chômage, à la pauvreté et à l'absence de perspectives dans leur pays, justement, tentent d'émigrer vers l'Europe, notamment. Alors, des efforts ont bien été promis à Abidjan lors de ce sommet Union africaine-Union européenne contre l'émigration irrégulière et la traite des humains. Les dirigeants des deux continents ont pris l'engagement de lutter contre l'immigration clandestine et ses dérives, comme les marchés d'esclaves en Libye. Une action humanitaire doit y être menée rapidement et les réseaux de passeurs doivent être mis hors d'état de nuire. Mais rien de concret n'a été décidé pour lutter contre la corruption. Or, de l'avis de Hyacinthe de Nyanga au Congo-Brazzaville, c'est la bonne gouvernance qui fait défaut.
Moi, personnellement, j'attends que les dirigeants européens inculquent aux dirigeants africains de respecter la démocratie, les droits de l'homme. Parce que la paix étant la condition sine qua non du développement, sans la paix, rien ne peut avancer en Afrique. Donc j'insiste d'abord à ce que nos dirigeants commencent d'abord par créer les conditions de développement, et notamment la paix.
Et vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, bien qu'il ait dit que les relations vont changer, continue en réalité d'entretenir des relations très diplomates, on va dire, avec les dirigeants africains? Trop diplomates à votre avis?
Mais voilà pourquoi je dis, madame, le président français a volé plutôt au secours de ses homologues africains, parce que il y a des situations qui se passent. Je peux prendre l'exemple des élections. On attend, disons, la position de la France. Il faut que la France se prononce, par exemple, sur les élections. Bon, lorsque le président a dit que la politique française de l'Afrique n'existe plus, bon, chez moi, ça sous-entend que la France se désengage de l'Afrique. Alors, dans ce cas, c'est un nécessaire.
Djimba de Nzérékoré en Guinée estime aussi que la malgouvernance est à la base de tout problème en Afrique. Un avis que partage Rousseau de Matadi en RDC. Il regrette que l'on traite toujours des problèmes, mais pas de leur cause. C'est la mauvaise gestion de nos ressources par nos dirigeants en complicité avec les Occidentaux, écrit Rousseau. Kodouloum, présentatrice radio à Dakar au Sénégal, pense de son côté que le sommet d'Abidjan était opportun et elle souligne l'urgence d'aider les migrants en Libye. Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour accompagner ceux qui veulent aller de l'avant et investir dans leur pays.
Ce sommet est venu à son heure parce que les questions qui ont été abordées au cours de ce sommet-là sont relatives aux questions migratoires. Le moment était très très bien choisi du fait de l'actualité.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des actions concrètes qui risquent de voir vraiment le jour? Parce que bon, on a dit qu'on va essayer de lutter contre ce drame de l'immigration clandestine et donc de mener une action humanitaire rapidement en Libye pour mettre aussi hors d'état de nuire les réseaux de passeurs.
C'est la question même cruciale. Oui. La première chose à faire, c'est de secourir ceux qui sont actuellement en Libye et qui souffrent. Le rapatriement de ces fils-là, de ces Africains qui sont en Libye, est une chose, mais cela ne suffit pas, parce que les raisons qui poussent ces jeunes-là à partir sont encore là.
Voilà. Donc comment, justement, par exemple, le président Ouattara a souligné la nécessité de donner un avenir à la jeunesse africaine, mais en agissant sur le long terme, en intensifiant les efforts pour offrir une éducation de qualité, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des vœux pieux ou qu'il y a des chances que ça suive? Parce que le phénomène, il continue.
Le monde continue et c'est ce qui fait justement aujourd'hui, malgré toutes les informations que les gens reçoivent sur les risques notamment, sur les conséquences négatives, les gens partent encore. Et c'est le moment de se poser beaucoup de questions. C'est aborder les questions sur d'autres angles, parler peut-être des ressources naturelles, revaloriser ce que nous avons ici chez nous, qui peut être utile à ces jeunes-là. On dit tout le temps que l'Afrique est riche en ressources naturelles, en ressources minières, en ressources gazières, mais nous ne profitons pas de ces ressources-là. Il y a un problème d'exploitation. Il y a les inégalités sociales. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la question aujourd'hui. Je pense qu'il serait en tout cas intéressant de revaloriser ce que nous avons et qui est propre à nous, la fertilité des terres. On n'a pas besoin d'aller très loin.
Mais là se pose aussi quand même la question de bonne gouvernance aussi. Un terme d'ailleurs que les dirigeants n'ont pas voulu évoquer dans le communiqué final.
Et tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est cette bonne gouvernance d'abord qui doit partir sur une bonne politique. Nous ne disposons pas actuellement d'une bonne politique migratoire. Ce qui démontre carrément qu'il y a un manque de volonté face à cette situation.
Et donc, selon vous, que faire là maintenant? Vous avez des jeunes aussi qui ont réagi après ce sommet. Qu'est-ce qu'ils demandent?
Les jeunes, ils ont toujours réagi. Ils sont conscients que l'avenir de l'Afrique ne se fera pas sans ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui ne disposent pas de tout ce qu'il faut en termes de connaissances, en termes de capacitation pour s'en sortir. On évoque tout le temps le manque d'emploi, le manque de formation de ces jeunes.
Justement, est-ce que vous pensez que l'éducation, par exemple, ou investir aussi dans la recherche, est-ce que ça, c'est une des clés du problème?
À peu près, combien c'est ce qui sont des diplômés
qui n'ont pas d'emploi
encore au chômage? Ça pose problème encore. La formation, elle est déjà là. Les gens sont formés et dans tous les domaines.
Donc, c'est la politique d'emploi.
La politique de l'emploi est à revoir.
Pour que les jeunes voient des perspectives dans leur propre pays.
Mais absolument, dans tous les domaines des perspectives qui prennent en compte d'abord leurs préoccupations. Quand on parle de l'éducation, moi, ça me pose un peu problème parce qu'il y a des avancées quand même dans le domaine de l'éducation. Ils sont combien les centres de formation professionnelle qui sont créés? Et dans tous les domaines.
Ce sont les débouchés plutôt qui manquent, selon vous, donc?
C'est ça. Il y a les débouchés.
Et c'est aussi ce qui explique que même des jeunes femmes prennent le chemin de l'exode.
C'est ce qui fait mal, justement, ces femmes-là. On voit que de plus en plus, cela prend de l'ampleur, cette féminisation de la migration. La pression sociale est là. Tout le monde veut réussir. Et les gens ignorent. On peut rester là où on est et réussir. Seulement, à un moment donné, on n'a pas de choix à faire. On ne peut pas ne pas être qualifié, n'avoir aucune qualification, aucune formation et vouloir se retrouver dans un bureau. Ce n'est pas possible. Et pour étayer cela, ils sont combien les autres communautés à se retrouver au Sénégal aujourd'hui? Si je prends l'exemple de la communauté guinéenne, la communauté marocaine, la communauté capverdienne. Il y a des gens qui, quand ils sont là, ils n'hésitent pas dans certains métiers. Il y a des métiers qu'ils ont créés eux-mêmes parce qu'ils savent que les nationaux ne se penchent pas sur ces questions-là. Ce sont des métiers qui sont généralement jugés sans importance. Et c'est des métiers qui rapportent.
Ils ne sont pas bien considérés, on va dire, au Sénégal, mais que d'autres sont prêts à faire.
Mais bien sûr, et qui s'en sortent bien. J'ai fait un entretien avec un Guinéen qui me dit qu'il est au Sénégal depuis qu'il avait 14 ans. Avant, il travaillait dans les petites blanchisseries modernes. Aujourd'hui, il a sa propre blanchisserie. Il a loué un atelier où il paye tous les mois 60 000 francs. Et à la fin de chaque mois, il parvient à gagner 300 000 francs. Parfois 250 000. Ces blanchisseries sont fréquentées par des Sénégalais qui sont là.
Et donc, vous pensez qu'il y a trop de Sénégalais qui veulent taper trop haut et qui, du coup, ne trouvent pas...
Bien sûr, il y a un peu de cela.
Mais par ailleurs, d'autres qui sont bien formés et qui ne trouvent pas d'emploi.
Tout à fait. Et c'est cela même qui sont les chômeurs. C'est celui qui a son diplôme et qui ne parvient pas à trouver un emploi. Seulement, face à cela, il y a une autre frange quand même, ces gens-là qui sont très bien qualifiés, qui sont hors du pays et qui sont dans des secteurs qui peuvent être profitables au pays d'origine et qui ne rentrent pas, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, entre autres.
Et selon vous, est-ce que l'Afrique doit continuer de dépendre de l'Union européenne, par exemple, là en l'occurrence, ou est-ce qu'elle doit aussi définir elle-même sa politique donc, de développement?
Au fait, ne pas dépendre serait trop dire. comme tu dirais, couper la relation. Ce n'est même pas possible. Nous ne sommes pas pour cela. Mais quand même, à un moment donné, moi, je me dis que ce sont les États qui doivent aujourd'hui se lever, prendre leurs responsabilités, être accompagnés. Je suis d'accord, mais pas éternellement. Si tout le monde envisage de partir, je me demande bien comment est-ce que nous allons nous retrouver dans une dizaine d'années.
Sachant néanmoins que ce que les migrants de la diaspora envoient est toujours supérieur à ce qu'on appelle l'aide au développement.
Mais est-ce que cela sert à quelque chose? Tout ce qu'ils envoient, c'est pour la dépense quotidienne. C'est de l'argent qui est consommé et non investi. Il faut qu'ils soient accompagnés dans l'investissement. Ils sont nombreux à vouloir investir en Afrique, mais ne pas savoir par où passer. J'ai interpellé un migrant qui était en Italie pendant 12 années. Actuellement, il est rentré. Son conteneur de matériel a mis 1 an et 10 mois au port, presque 2 années. Est-ce que cela donne la volonté?
C'est décourageant, bien sûr.
C'est beaucoup ça. Il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il sache quoi faire et par où. Et nous n'avons pas cette culture-là. C'est dommage, nous nous lançons aveuglément dans beaucoup de projets, des projets que nous ne maîtrisons même pas. Et à cela s'ajoutent les différents programmes financés par beaucoup de partenaires financiers, des partenaires techniques qui viennent avec des idées déjà toutes faites, avec des programmes ficelés sur le dos des populations, sans tenir compte des réalités socio-économiques. Tout cela, ça pose problème.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qui était à Abidjan à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne, s'est dit favorable à l'immigration légale des Africains qui désirent poursuivre leurs études ou travailler en Allemagne, à condition toutefois qu'ils aient une formation professionnelle préalable et qu'ils acceptent de rentrer dans leur pays après 3 ou 4 ans pour aussi donner la chance à d'autres personnes de voyager. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité. Certains d'entre vous ont accueilli cette suggestion favorable, comme Raphaël de Kinshasa. Quelle bonne et belle idée, c'est bien vu, estime-t-il. Diarra de Conakry en Guinée trouve aussi que ce serait une bonne chose, car il faut mettre fin à la fuite des cerveaux en Afrique. Il revient à nos dirigeants africains de créer des conditions de retour et valoriser ces cadres formés en Occident, nous écrit Diarra, parce que personne d'autre ne viendra bâtir l'Afrique à la place des Africains. En revanche, d'autres sont plus critiques, comme Dakin de Lomé au Togo. Qui, le ministre, pense-t-il aider en proposant cela? Ce sont les mêmes qui voyagent aujourd'hui légalement, qui continueront à voyager. Ce sont eux qui ont les moyens financiers, du contribuable pour la plupart, estime Dakin. Francisca de Lomé au Togo est aussi dubitative. D'après vous, combien de personnes vont vraiment vouloir rentrer à la fin de ces 4 ans, demande-t-elle. Nous ne souhaitons pas de traitement de faveur, nous écrit Ralph de Franceville au Gabon. Nous demandons juste que nos richesses servent à l'épanouissement de l'Afrique, que l'Allemagne débarrasse l'Afrique des dictatures. Ce sera une action louable.
Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches.
La visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso a aussi retenu votre attention, mais surtout son discours devant des jeunes à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. J'ai entendu son discours, ça fait bien rêver cette nouvelle France-Afrique, nous écrit Gatien de Lomé au Togo, mais comme il peut lui-même le remarquer, la jeunesse africaine ne croit plus en ce genre de discours mielleux. La jeunesse africaine s'est réveillée, elle ne peut plus s'endormir avec ses belles paroles, écrit-il. Léonard de Sao Paulo au Brésil, mais originaire du Tchad, est lui très remonté dans un message qu'il nous a laissé sur WhatsApp.
Voir le président français faire un discours à des jeunes africains dans une université africaine, c'est l'image de l'Afrique qui peine encore et assumer son indépendance. L'Afrique attend toujours des leçons de l'extérieur. Et ce qui me choque encore dans cette histoire, c'est voir la jeunesse africaine qui se réclame de la génération qui ne veut plus vivre ce que nous anciens ont vécu. Et rester là, écouter un président français, lui donner des leçons. Vraiment, c'est choquant, c'est absurde. Je crois que la jeunesse doit prendre conscience.
En revanche, Patrick de Kinshasa en RDC trouve ce discours d'Emmanuel Macron légitime.
Je pense que c'est une démarche qui est légitime. Emmanuel Macron en déplacement en Afrique, un continent qui a des rapports et des relations historiques avec l'Europe. Et je pense que c'est légitime. Il peut s'exprimer, il peut débattre, il peut discuter, il peut donner des conseils à cette jeunesse. Je ne vois pas en quoi ça doit choquer. Et je pense qu'Emmanuel Macron, en tant que président français, peut discuter avec la jeunesse africaine, envie aussi de canaliser leurs ambitions. Car c'est une jeunesse qui se trouve être délaissée et qui pense qu'ils doivent chercher la vie dans l'Eldorado.
L'Eldorado, c'est ce que voulait atteindre l'un de nos fidèles auditeurs, arrivé jusqu'au Maroc, à Nador, plus précisément au sud de Melilla. Dans l'attente de pouvoir traverser la Méditerranée, il vivait dans des conditions on ne peut plus précaires, dans la forêt de Bolingo, d'où il nous envoyait des photos pour attirer notre attention sur la situation des droits de l'homme qui ne sont pas respectés au Maroc. Ce qu'il trouve d'autant plus révoltant, c'est que des migrants musulmans soient maltraités dans un pays musulman. Les forces auxiliaires marocaines font des descentes musclées dans les forêts où sont logés les migrants. Ils nous arrêtent, y compris les femmes et les enfants. Ils détruisent, ils pillent tout et brûlent nos biens, nous écrivait-il. Depuis quelques jours, plus de nouvelles de lui. Nous avons essayé de le joindre en vain et il ne répond plus non plus aux messages. C'est que la guerre aux migrants continue. En témoigne Omar Nadji, président de l'Association marocaine des droits humains, section de Nador.
À peu près chaque jour, on a les ratissages, ce qu'on appelle les ratissages. Ils font un ratissage de la forêt. Les autorités marocaines, assistées par avion par les autorités espagnoles. Donc, il y a un avion qui vient de Melilla qui fait le contrôle aérien. Suite à ce contrôle aérien, les autorités marocaines attaquent les campements.
C'est ça.
Et lorsqu'ils attaquent, ils détruisent tout ça. Ils détruisent les avions plastiques, ils arrêtent les migrants, y compris les femmes et les enfants. Ce qui est contraire à la loi marocaine. Même la loi 0203 marocaine concernant l'immigration interdit donc l'arrestation et le refoulement des enfants. Et malgré ça, ils les arrêtent.
C'est-à-dire qu'ils détruisent tout, ils brûlent tout pour s'assurer que personne ne puisse rester sur place.
Oui, c'est ça. Mais... Donc, les migrants, s'ils survivent en forêt, ils sont très loin de la ville de Nador, ils sont très loin de la barrière avec Melilla, mais malgré ça, ils sont poursuivis. Donc la loi marocaine, ils interdisent le refoulement des enfants et des femmes,
oui.
Et des femmes enceintes. Hein.
Mais...
Malgré ça, ils les refoulent généralement vers le sud marocain, vers des villes très loin. Hein.
C'est-à-dire pas hors de la frontière du Maroc, mais au Maroc.
Non, au Maroc, dans les villes du sud. Ils sont lâchés en plein Sahara, sont en plein zone, enfin à l'extérieur des zones urbaines.
Parce qu'on a vu aussi des photos de migrants qui ont été blessés, qui sont à l'hôpital.
Oui, c'est des interventions violentes. Hein. Parfois, ils utilisent la violence contre les migrants. L'hôpital Hassani, l'hôpital de Nador, ils reçoivent plusieurs cas de migrants blessés.
Et vous avez aussi publié des photos des migrants qui sont acheminés par bus à la police et qui ont été donc refoulés directement sans avoir le droit de faire une demande finalement d'asile. Leurs demandes n'ont pas été du tout examinées.
Oui, bien sûr. Le migrant n'a pas le droit, il ne peut pas présenter une requête auprès des autorités. S'il se présente devant la police, ils vont les arrêter sur place et le refouler. Donc ils n'ont pas le droit de présenter une requête. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville de Nador est la seule ville au Maroc où le migrant ne peut pas circuler librement en ville. Hein.
Oui.
C'est-à-dire si on le voit en ville, il est arrêté directement. Même s'il a des cartes de séjour. Là, ce n'est pas comme les autres villes marocaines. Par exemple, un migrant, il peut circuler à Rabat ou bien à Fès ou à Casablanca, mais à Nador, non. Elle est arrêtée sur le champ.
Et comment vous expliquez ça?
Oui, c'est des violations. Le Maroc joue le rôle de gendarme, si vous voulez, de l'Union européenne. Donc il veut éloigner les migrants le plus loin possible de la frontière avec l'Union.
Et donc ces migrants sont pratiquement, une fois qu'ils ont été arrêtés et livrés à la police, ils sont acheminés par bus dans le sud du pays, dans le désert.
Oui, ils les laissent là-bas, dans le désert, sans aucune assistance. Mais avant de les refouler, ils sont généralement rassemblés dans deux centres, ce qu'on appelle nous les centres d'enfermement illégal. Il y a un centre à la gendarmerie de Nador et un centre au commissariat de Nador. Ils sont arrêtés deux jours, trois jours, une seule journée. Donc le temps de procurer un bus et de refouler directement vers le sud. Et cette période d'arrestation, il est illégal parce qu'il n'est pas sous aucun compte judiciaire. Ce n'est pas sur ordre du parquet qu'ils sont arrêtés. C'est la police qui les arrête comme ça, deux jours, trois jours. Donc c'est une grande violation pour nous à l'Abdel. Le Maroc joue ce rôle dans un cadre de coordination avec les Espagnols et avec les Européens. Et le jour, bien sûr, il y a des intérêts économiques entre le Maroc et l'Union européenne. Il y a des accords.
Et quelles sont vos possibilités d'agir, vous, justement, et les organisations des droits de l'homme? Quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous pouvez...
Non, Nador, c'est une zone très difficile où, par exemple, les journalistes ne peuvent pas travailler librement sur le dossier de la migration. Bengache. Plusieurs journalistes nous ont visités ici à Nador, ils ont été refoulés par les autorités marocaines. Donc c'est très difficile de travailler sur ça. Nous, on travaille, enfin difficilement, on a des problèmes avec les autorités, mais on continue à travailler. On a trois membres d'AMDH qui ont été arrêtés. Donc c'est des conditions difficiles pour les journalistes, pour les organisations ONG, internationales des droits de l'homme. Amnesty, lorsqu'il a voulu visiter Nador, son représentant a été interdit d'entrer à Nador. Si vous voulez, les enjeux les plus importants de la migration à Nador, c'est des enjeux financiers. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Nador? Les migrants avaient la possibilité de migrer à Melilla en traversant, en sautant à travers la barrière.
Oui.
La barrière terrestre. Hein?
Oui.
Mais ceci est rendu de plus en plus difficile à cause de la construction de la quatrième barrière par les Marocains. Donc c'est devenu presque impossible pour un migrant de sauter à travers la barrière.
Oui, parce qu'elle est beaucoup plus haute, évidemment.
Elle est beaucoup plus haute, il y a des tranchées, il y a des caméras, il y a le contrôle aérien, les casernes militaires, le contrôle militaire. Donc c'est très difficile de migrer par voie terrestre vers Melilla. C'était la méthode, si vous voulez, gratuite, hein,
oui,
d'immigration. C'était la méthode utilisée par les migrants les plus pauvres. Donc ceci n'est plus possible. Alors d'autres voies d'immigration se sont ouvertes. Donc il y a maintenant deux voies d'immigration vers l'Europe à partir de Nador. Donc soit par Zodiac, c'est-à-dire par voie maritime, par voie marine, ou bien par voie, c'est-à-dire en se cachant dans des véhicules et traverser la frontière avec Melilla.
Oui, ce qui est dangereux aussi, puisqu'on a retrouvé des migrants morts et d'autres qui sont arrêtés parce qu'on les découvre, évidemment, dans les véhicules.
Voilà. Et ces deux voies d'immigration, que ce soit la voie maritime ou bien par véhicule, c'est une voie qui est contrôlée par les trafiquants.
Oui.
Pour migrer, par exemple, à travers la mer, il faut 3000 euros. C'est cher, hein, 3000 euros. Mm. Et pour migrer caché dans une voiture, il faut 1500 euros à peu près.
C'est sans garantie d'arriver...
Donc c'est devenu un marché vite, très vite pour les trafiquants.
Oui. Qui, eux, ne sont pas poursuivis.
Oui, bien sûr, parce que tout ça se fait devant les yeux des autorités. Ils sont là, dans les postes frontaliers, ils sont le long de la mer. Il y a des contrôles militaires le long de la mer. Donc si vous voulez, notre évaluation des politiques européennes et des politiques marocaines en matière d'immigration, c'est que lorsqu'ils ont fermé la voie d'immigration par barrière qui a été destinée pour les migrants les plus pauvres, c'est comme s'ils ont orienté en fait la migration vers les méthodes payantes, hein,
oui,
vers les méthodes payantes, et ces méthodes continuent. Donc on a enregistré le nombre de migrants qui migrent par voie payante, il a augmenté. Il a augmenté, la migration n'a jamais été arrêtée.
Il y a donc une hypocrisie aussi des autorités tant marocaines qu'européennes.
Oui, c'est une hypocrisie parce que l'objectif à notre juge n'a pas été atteint. L'objectif n'était pas de réduire le nombre de migrants, l'objectif était de les orienter vers des méthodes de migration payantes. Et ça continue donc à se faire.
Notez que les migrants subsahariens souffrent aussi de maltraitance ailleurs. Nous parlions la semaine dernière de la Libye, mais Isaac d'Abidjan se dit lui très très en colère parce qu'il a ce sentiment que les différents présidents au sud du Sahara sont très indifférents aussi à la situation de leurs compatriotes en Algérie, où aucune dignité humaine n'est accordée à la peau noire, écrit-il. Le mutisme des différents gouvernements est d'autant plus choquant et révoltant que toutes ces migrations sont occasionnées par leur mauvaise gouvernance et qu'ils n'offrent toujours pas le cadre aux jeunes pour vivre mieux. La CEDEAO et l'Union africaine ne condamnent pas les actes de l'Algérie qui jettent nos frères aux portes du désert sans sécurité. Quelle barbarie et quelle méchanceté, écrit Isaac. Alors que les pays occidentaux protègent, eux, leurs ressortissants partout dans le monde. Il est temps en Afrique que les gouvernants ne protègent pas seulement leur pouvoir, ils ont la lourde responsabilité de sauvegarder la vie de leurs ressortissants, estime Isaac. Voilà, pour se quitter sur une note un peu plus gaie, nos meilleurs vœux encore à Paulin de Dilologar en RDC, Mamadou Siré de Conakry en Guinée et Lamarane de New York qui ont fêté cette semaine leur anniversaire. Je vous rappelle à tous mon adresse mail, c'est mireille.drone, drone@dw.com. Et puis notez que vous pouvez retrouver cette émission, comme tous les programmes du service en français de la Deutsche Welle, sur notre site internet, notre adresse dw.com/français. Vous y retrouverez aussi les liens vers nos pages Facebook et Twitter. Et si vous voulez recevoir nos infos via WhatsApp, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp pour vous inscrire. Vous êtes bien sûr invité aussi à nous laisser des messages parlés ou écrits. Merci de votre fidélité, à très bientôt de vos nouvelles, j'espère. En attendant, bonne continuation à tous. Au revoir. Oh, yeah. Oh, yeah.
partisan d'un monde.